Le balado que tu t'apprêtes à écouter, tu peux pas l'entendre ailleurs. C'est une exclusivité.
88.3, c'est fac.
Ça part ici.
Sur le zone de CFA 88.3, c'était trop de patates, trop de patates, trop de frites, de jeans, blue jeans blue. Et on va enchaîner avec le deuxième bloc qui portera sur les guerres économiques. Au-delà des tarifs, un affrontement opérationnel stratégique. Mais je préfère plus dire le mot stratégique qu'opérationnel. Alors, enlève le voile sur un type de conflit invisible, mais... redoutablement efficace sont les guerres économiques entre les États. Contrairement aux guerres classiques, il n'y a ni soldats, ni tanks, mais des tarifs douanières, des embargos, des sanctions financières, des taxes numériques ou encore des restrictions sur les technologies stratégiques. Ce type de guerre est souvent silencieux, mais ses effets sont vraiment réels, et significatifs. Par exemple, il y a l'inflation, ralentissement industriel, rupture d'approvisionnement. Depuis quelques années, les tensions entre les États-Unis et la Chine, entre l'Union européenne et certains pays producteurs d'énergie, ou encore entre le Canada, l'Inde, les États-Unis aussi, nous montrent à quel point l'économie est devenue un terrain de confrontation géopolitique. En économie, on parle de protectionnisme. C'est lorsque l'État cherche à protéger ses entreprises locales en restreignant les importations. C'est souvent par des barrières tarifaires, exemple les droits de douane, ou non tarifaires comme les quotas, normes sanitaires, restrictions technologiques, ce qu'a fait vraiment les États-Unis pour le Canada. Alors, plusieurs économistes en théorie ou bien ont théorisé ces tensions. Il y a Friedrich List. En 19e siècle, il défendait le protectionnisme éducateur. C'est quoi le protectionnisme éducateur? Selon lui, les industries naissantes doivent être protégées jusqu'à leur maturité. Et il y a aussi Paul Krugman, qui a eu le prix Nobel en économie. Bien sûr, il n'y a pas de prix Nobel en économie, mais le prix de la Banque de Suède en hommage de Nobel, ou bien le prix d'économie en hommage de Nobel. Alors, Paul Krugman a démontré que certains conflits commerciaux relèvent d'une logique stratégique de domination à long terme, surtout dans les secteurs à rendement croissant ou très innovants. Et dans une logique plus moderne, on a l'économiste Danny Roderick qui parle d'un trilemme mondial. On ne peut pas avoir en même temps la mondialisation, on ne peut pas avoir la souveraineté nationale, la démocratie forte. Les guerres économiques seraient donc une réaction de défense politique à l'hypermondialisation. Prenons le cas des États-Unis et la Chine. Depuis 2018, Washington a imposé plus de 300 milliards de dollars de tarifs sur les importations chinoises. Résultat, montée des prix de tension sur les semi-conducteurs et des entreprises américaines contraintes de relocaliser ou diversifier leur chaîne d'approvisionnement. En 2023, le Canada a eu lui aussi sa part de tensions. L'embargo indien sur certains produits agricoles, tensions autour des visas, restrictions sur les investissements étrangers chinois dans des secteurs qui étaient critiques. L'Europe n'est pas en reste. En 2024, l'Union européenne a lancé une enquête sur les subventions chinoises aux voitures électriques, menaçant de surtaxer ces produits. Et comme objectif, on a quoi ? Éviter une dépendance technologique trop forte comme cela s'est produit avec le gaz russe. Ce ne sont pas que des guerres économiques, ce sont aussi des guerres qui influencent. Les règles commerciales deviennent des armes diplomatiques. Quand je regarde tout cela, je pense à ma propre trajectoire. En tant qu'économiste passionné venu du Maroc, qui vit ici au Canada, j'observe que même mes études ou bien mes projets de recherche, ces tensions se restent. Par exemple, l'accès aux données restreint, complexité de collaborer avec certains pays, l'incertitude sur les investissements internationaux. L'économie est devenue un champ de bataille feutré, mais constant. J'ai une réflexion aussi. Alors, faut-il craindre ces guerres économiques? Oui, mais il faut aussi les comprendre. Elles peuvent protéger certaines industries, mais elles augmentent les coûts pour les consommateurs et freinent vraiment l'innovation mondiale. Elles poussent le pays à investir en autonomie industrielle, à relocaliser, ce qui peut être bon à court terme, mais parfois au prix de la coopération internationale. Le vrai danger, c'est l'escalade, car à force de ripostes tarifières et de sanctions, les économies finissent par se refermer, se fragmenter. On entre alors dans une logique de slowbalisation, comme le dit The Economist, une mondialisation ralentie, efficace et polarisée. Pour moi, les guerres économiques montrent une chose. La géopolitique est de retour au cœur de l'économie. L'illusion d'un monde fluide, sans frontières, sans barrières, où seuls les marchés décident s'est effondré. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que le pouvoir économique devient une arme diplomatique. Mais ce pouvoir doit être utilisé une stratégie avec, en fait, doit ce pouvoir doit être utilisé avec une bonne stratégie, pas avec une impulsion. Car une guerre économique mal calibrée, c'est une économie mondiale qui perd en confiance, en stabilité, en solidarité. Nous avons besoin de règles repensées, mais aussi d'un courage politique pour coopérer là où c'est encore possible. Car aucun pays ne peut proposer en autarcie, même les plus puissants. C'était ça le deuxième sujet, ou bien le deuxième bloc sur les guerres économiques, au-delà des tarifs, un affrontement stratégique. On enchaîne avec le troisième sujet qui sera sur le marché automobile. Ça va être après la courte pause sur les ondes de CFA 88.3.